un gaon, Rabban David Nas sur le Shulchan Aruch, sur cette halakha dont nous parlons. Le gaon traduit, et de du côté de l'alternative dans laquelle on se trouve, et cette différence qu'il faut d'abord comprendre pour pouvoir ensuite se mettre dans une situation où cette différence ne nous apparaît plus même. Que Arur Haman, il faut le traduire par la Nikmat Haman, la Nekama, le mot Nekama, on traduit donc par vengeance, la vengeance sur Haman. Et l'autre côté, le Baruch Mordechai, c'est traduit par Gedulat Mordechai. La grandeur, l'élévation, le fait que Mordechai soit arrivé au rang de grand vizir. Alors, évidemment, c'est que un nekama, chez nous, ça n'a pas très bonne presse. Parce que c'est bien connu qu'on n'a pas le droit de se venger. L'autre, comme dit-on, nous n'avons pas le droit de nous venger. Et pourtant, le mot nekama dans la Torah, Chazal le met en avant en disant que la nekama elle est nitna ben shte otiyot. C'est marqué kel nekamot Hashem. C'est-à-dire le mot Nekama, il est en sandwich, en quelque sorte, entre deux termes qui indiquent qui parlent d'Akadosh Baruch Hu. Une sous la forme Kel, Aleph Lamed, et l'autre sous la forme du tétragramme habituel. Donc si la Nekama est présentée de cette manière-là, c'est que c'est quelque chose de tout à fait valable. On va pas accoler le nom divin, deux des noms divins, à quelque chose de négatif. Eh bien, il y a autre chose qui a été donnée aussi entre deux noms divins, c'est la notion de da'at. C'est aussi la même chose, aussi entre deux noms divins. Et puisque, en fait, le da'at est enlevé, c'est pour ça qu'on ne sait plus la différence, on n'est pas capable de faire la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai. Bon, le Gaon n'est pas très clair, pour nous en tout cas, et en tout cas, bon, il faut qu'on redescende ces remarques du Gaon dans notre langage, pour qu'on y trouve un peu un sens à notre hauteur. La Gemara, dans Maseret Brachot, elle dit justement Amar Rav Ami Gdola Dea, le Dea, Dea c'est le Dat, Shenitna Ben Shte Otiyot, qui a été donné aussi entre deux signes, les signes qui, les noms divins sont appelés les signes, c'est marqué « qui quel déot Hachem ». De nouveau, c'est « quel Hachem » et entre les deux, « déot », enfin c'est le pluriel de date. Alors, la Gemara dit, si tu dis que de figurer entre deux noms divins, ça indique la grandeur de la chose, alors, dit la Gemara, la Nekama, elle est aussi donnée entre deux signes de cet ordre, entre deux noms divins. Comme on l'a dit, c'est qu'elle n'est qu'un Hashem. Donc la Gemara dans Brachot, elle s'étonne. Elle dit, si tu me présentes la situation en disant que dès lors que un mot est situé entre deux noms divins, c'est la preuve que cette chose-là, ce mot-là, il représente quelque chose de valable, même de très important. Alors, je vais appliquer cette règle-là au mot nekama, au mot vengeance. Alors, il lui a répondu, Amarle, in bemilta, miyag dolahi. C'est juste. Mais parce que dans cette situation-là, elle est effectivement une grande chose, là. La nekama. C'est pour ça que Oula, qui est un autre grand maître, a dit J'te nekamot alalu lama. Il y a deux nekamot. Pourquoi c'est un pluriel nekamot, oui. Pourquoi il y en a deux? Il y en a deux, mais pourquoi? Achat le tova et achat le ra'a. Une fois c'est pour le bien, une fois c'est pour le mal. Le Tova d'Irtiv, Ophia Mehar Paran, et le Ra'a d'Irtiv, Ken Nekamot Hashem. Qu'est-ce qu'il nous raconte là? Ça, de nouveau, c'est à peu près aussi incompréhensible. Mais là, le Gaon donne son commentaire sur Maseret Brachot. Et il dit la chose suivante. C'est Rabbi Elazar qui a dit que de la Dea Shenitna Ben Shte Otiyot, comme c'est marqué, quel Deot Hashem. Et dans le Talmud Yerushalmi, on dit que Od, et encore plus que ce qu'on a déjà dit, Az Tavin Yirat Hashem, Veda Telokim Timtsa. Alors tu comprendras, Tavin, la crainte d'Hachem et le dat, le discernement d'Elohim, tu le trouveras. Et c'est ça qu'on veut dire là, qu'il y a deux déot, deux fois le mot dat, entre ces trois noms divins, en quelque sorte. Mais il parle de trois noms divins, on n'en a vu que deux. Donc, il n'a pas dit quel était le troisième. Mais le fils du Gaon l'a expliqué. Il a dit, ici, il a été dit, entre le tétragramme et l'Elohim, c'est aussi marqué ben quel ou ben avaya ou ben entre quel et le tétragramme. C'est-à-dire quel derot Hashem. Et c'est, en fait, ça correspond à trois noms divins. Ces trois noms, Shenivra, Haaretz, parce que la terre a été créée, et on a utilisé trois noms divins, Kel, Elohim et le tétragramme. Et donc, c'est marqué d'Iber. Shte deot ben shlosha elu hashemot, echad Netzarev, en fait, Chesed, Tiferet. L'Echad Netzarev, Tiferet et Gdoula, et Gvoura, pardon. C'est-à-dire, en fait, de nouveau, une explication, mais on n'est toujours pas plus avancé avec cette explication, c'est toujours trop haut pour nous, tout ça. Alors, on va essayer de comprendre quand même. On va expliquer d'abord ce qu'a dit Rabbi Avraham, le fils du Gaon. Ce que le Gaon, le fils du Gaon là-dessus, il parle de ce sujet dans un commentaire sur un pasouk de Tehilim. Dans Tehilim, dans le chapitre Nun, marqué comme ça, Mizmor le Asaf, Kel Elokim Hashem, Diber, Vaikra Eretz. Mizmor de Asaf, c'est un chant donc de Asaf, c'est l'auteur, et il dit que Hashem a parlé, mais il a parlé sous trois noms divins. Donc, Kel, Elohim et Hashem. Et donc, et le Rebbe Avraham explique que ces trois noms-là, ce sont les noms qui ont servi pour la création de la terre. C'est-à-dire, le nom de Kel, Aleph Lamed, c'est ce nom divin-là, il correspond à la Mida qui s'appelle Chesed. Le Gaon explique ça dans ses commentaires sur Michelet, par exemple, et aussi dans Kol Eliyahu, dans Parshat Balak. Où il explique effectivement que la terre a été créée avec le nom divin Kel. On sait qu'il y a un passage où Hashem dit qui amarti olam chesed ibané, le monde va se construire sur le chesed, et le nom divin qui correspond à chesed, à la générosité, c'est le nom divin Kel, Aleph Lamed. On voit donc ici que le monde a été créé avec Chesed. C'est-à-dire, toute la démarche divine, nous la comprenons, nous la recevons comme une démarche de Chesed. C'est-à-dire, Hashem a créé le monde pour faire du Chesed. Pour que le Chesed divin s'exprime. C'est ça le but de la création vu d'Hachem. Maintenant, les deux autres noms, Hachem et Elohim, ce sont les deux noms qui sont cités dans Maaseh Bereshit. Dans le récit de la création, on parle au début d'Elohim, et ensuite, on parle d'Elohim, auquel on a rajouté le tétragramme Hachem. Comme c'est marqué dans le verset, ultimement, quand on les prend les deux à la fois, Biyom Asot Hachem Elohim Eretz Veshamayim. Le jour où Hachem a fait, ou Hachem Elohim a fait le ciel et la terre et le ciel. Ici, donc, dans ce texte-là de Bereshit, on voit qu'Hachem a créé le monde avec les deux noms de Elohim et le tétragramme. C'est ce que Rashi ramène au nom de Chazal, qu'au début, Akadosh Baruch Hu, Alab Marshava Livrot Aolam de Midat Adin, il est venu à la pensée divine de créer le monde selon la Midat Adin, selon la mesure de rigueur. Ra'a she'en ha'olam yachol leitkayem. Hashem a vu que le monde ne pourrait pas tenir de cette manière-là, il ne pourrait pas durer. Amad ve'tziref midat rachamim. Donc, il a ajouté la mida de rachamim. La mesure de rachamim, la mesure de tendresse. C'est-à-dire, on voit bien ici, le Shem Elokim, il indique la midat adin. Au début, c'est pour ça que le début du texte ne porte que Elohim. Le Réchid, Bara, Elohim, puis ensuite, Vayar, Elohim, etc. C'est Elohim, jusqu'à un moment où effectivement Hachem a ajouté, on a ajouté à Elohim Hachem, mais comme Hachem est un nom plus grand que Elohim, alors on dit Hachem Elohim, mais pas Elohim Hachem. Donc, on voit qu'il y a trois noms qui sont des noms avec lesquels Hachem a créé le monde. Quel ? C'est comme si au début, il y a un projet général qui est Chesed. Ensuite, concrètement, dans la construction du monde, dans la fabrication du monde, dans la création du monde, on commence par Elohim, et puis ensuite, Hachem ajoute le nom divin, tétragramme, Hachem. En d'autres termes, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu gouverne le monde avec ces trois noms divins-là. C'est-à-dire avec Chesed, avec Din qui correspond à Elohim, et avec Rachamim qui correspond au tétragramme. En d'autres termes, ce qui nous est dit quant à la création du monde, ce n'est pas dit pour que nous sachions comment Hachem a créé le monde. Mais ça nous est dit pour que nous sachions comment Hachem gouverne le monde. C'est toujours Hachem qui gouverne le monde. Mais il fonctionne avec ce qui s'appelle des midot. C'est-à-dire, il y a des mesures qui sont prises, des mesures de din, des mesures de chesed, des mesures de rachamim. Et donc, Hachem décide, c'est son bon vouloir, il décide de gouverner le monde dans cette situation-là en appliquant une règle de rigueur, ici en tendresse, et là de générosité. Bon, il y a trois façons de gouverner le monde. Alors, ça, c'est un peu mieux expliqué, un peu plus clairement expliqué dans des principes généraux qui sont énoncés par le Ramchal, Moshe Chaim Lutzato, le Sidat Echarim. Et il dit, « Omnam ha'ashgacha tzricha leishtanot » Le fi maase atartoni. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu gouverne le monde. Mais la volonté d'Hachem, c'est qu'il allait gouverner le monde en fonction des actions des hommes. C'est un peu fou, n'est-ce pas? C'est quelque part, les hommes vont déterminer comment Hachem va gouverner le monde. Certaines fois, il fera fonctionner le chesed, c'est-à-dire qu'il va faire du bien, dispenser le bien. D'autres fois, il va gouverner d'après le din, c'est-à-dire qu'il va sanctionner le mal. Donc c'est une anaga, une conduite de direction du monde, selon le chesed ou selon le din. Alors, en vérité, dit-il, il y a des situations où le Kadosh Baruch Hu fait fonctionner un chesed gamour, un chesed complet, c'est-à-dire, il décide d'être mochel al kol pesha. Il décide de pardonner toutes les fautes. Il y a des situations qui sont données, n'est-ce pas? On dit que quand quelqu'un est olel igdoula, mochlin lod kol avonotav. Quand quelqu'un prend une position plus élevée, c'est-à-dire il prend des responsabilités dans le clan Israël, il devient roi ou il a un pouvoir, alors on est mochel kol avonotav. On lui pardonne toutes ses fautes. On veut qu'il puisse gouverner, diriger le clan Israël sans avoir à porter le poids des fautes qu'il a faites avant d'accéder à ce niveau-là. On le dit même d'un Khatan Kala, que quand effectivement il commence un couple, c'est-à-dire c'est une autre tranche de vie, un autre ensemble de responsabilités, eh bien on leur donne des pages blanches en quelque sorte. C'est pour ça que l'habitude est que puisqu'on va ce jour-là recevoir ce cadeau que pardonner toutes les fautes. Alors, c'est-à-dire pour nous le jour où du pardon, c'est Yom Kippour, et pour nous Kippour c'est associé à la mitzvah de Vidouï. C'est la raison pour laquelle le Khatan, la Kala, le jour du mariage, ils font un Vidouï. Ils font la même Amida que celle qu'on fait Erev Yom Kippour. L'Amida normale, mais à la fin, le vidouille. Pourquoi? Parce que ce jour-là, leurs fautes leur sont pardonnées. Il y a toujours cette générosité d'Hachem qui consiste à nous donner des pages blanches. On a parlé déjà du fait que le korban tamid, c'est un korban qu'on apporte tous les matins et toutes les après-midi. C'est le korban avec lequel on ouvre la journée des korbanot dans le Beit Hamikdash et le korban avec lequel on ferme la journée. Et les Chachamim disent, quand on amène le korban tamid du matin, ce korban nous donne une page blanche pour la journée, c'est-à-dire on efface d'une certaine façon les fautes de la nuit. C'est-à-dire la journée n'est pas obérée par les bêtises que j'ai faites pendant la nuit. Et au commencement de la nuit, en fin d'après-midi, il y a la même chose, la nuit n'est pas obérée par les fautes qu'on a faites dans la journée. C'est un cadeau absolument faramineux. Parce que, si vous voulez, tous nos problèmes viennent de ce qu'on traîne derrière nous, les traces de toutes les bêtises qu'on a faites. Avoir la possibilité de vivre une journée pleine, voilà. Maintenant, j'ai devant moi une journée page blanche. Je peux être moi-même, ce que je veux vraiment faire, je peux le faire. Je n'ai pas à me soucier d'être entravé par ce que j'ai fait dans le passé. Alors, bien sûr que ça ne consiste pas à, si quelqu'un a tué son voisin comme ça, dans la nuit, il n'a pas une page blanche au sens où il ne lui a pas pardonné le crime qu'il a fait. On parle des fautes standards. Donc, il y a des fois où Hachem décide de gouverner le monde selon un chesed absolu, le don total. Je vous pardonne tout. D'autres fois, c'est exactement le contraire. Akadosh Baruch Hu fait fonctionner la Midat Adin, c'est-à-dire la rigueur s'abat en quelque sorte, et elle demande des comptes sur tous les détails. Demande des comptes sur l'absence de perfection quasiment. Et puis, bien sûr, il y a les situations intermédiaires. Intermédiaires, c'est-à-dire entre le précède absolu et le din absolu. Ça, ça s'appelle la tendresse. Ça s'appelle rachamim. D'autres appellent ça miséricorde, mais comme je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je traduis par tendresse parce que c'est construit sur, comme on a déjà dit souvent, rachamim, c'est construit sur le rechem, sur l'utérus, en fait. Ah oui, j'ai entendu aujourd'hui que on a fait à l'hôpital Foch, il y a eu la première naissance d'un enfant qui est né d'une greffe d'utérus. La mère et l'enfant se portent bien. J'ai pensé que pour nous, c'est pas très étonnant. Yitzhak Avinu aussi, il est né d'une greffe d'utérus. Sarah Imenu n'avait pas d'utérus, ça fait beaucoup de lui a greffé un utérus. Et donc le clan Israël, il a commencé à exister avec une greffe d'utérus. C'est pas... Bon, chez nous, c'est classique. Bon, enfin bon, les goïms sont arrivés à le faire. Je ne sais pas si c'est vraiment des goïms. Mais en tout cas, les gens sont arrivés à le faire aujourd'hui. Bon, c'est très bien, ils le font aussi, c'est bien. Donc on voit que la anaga fondamentale, le gouvernement fondamental du monde, il est fondamental, il est fondé sur Chesed et sur Din. Le Rachamim étant la Mida intermédiaire. Il y a un Sefer qui est aussi un Sefer du Ramchal, qui correspond à une espèce de disputation, en fait. Il écrit qui n'est quel Elohim Hashem, c'est-à-dire Chesed Gvura ve Tiferet. Donc lui, là, dans ce Sefer, il a descendu les choses en termes de Sfirot, si vous voulez. Il a traité en termes de Chesed, Gvura et la Sphira intermédiaire de Tiferet, la splendeur. Bon, ça correspond avec ce qu'on a vu, mais parce que la Gvura, bon, Chesed, Gvura, bon, c'est la Midata Din, c'est ce qu'on a vu ici, c'est Elohim. Et Tiferet, c'est l'amida de Rachamim, c'est l'amida qui est intermédiaire entre Chesed et Gvura. De nouveau, à d'autres endroits, pour nous familiariser avec ces notions, le Ramchal, toujours lui, il explique Sfirata Chesed. La Sphira, donc si c'est le langage de la Kabbalah, mais on peut le prendre simplement comme Midot, la Sphira de Chesed, c'est le Chesed absolu. Alors il dit, c'est intéressant, il dit, un chesed à gamour, il dit, c'est le chesed qui ne s'applique que pour celui qui se, dont les maasim, dont les actions sont à ce niveau-là. C'est-à-dire, par ses actions, il mérite le chesed absolu. Et la gvura, c'est le din que mérite, la sanction que mérite celui dont les actions, effectivement, méritent ce traitement. Et la tiferet, la splendeur, en fait, c'est ce gouvernement du monde intermédiaire entre le chesed et le din, qu'on appelle rachamim, donc. Alors, il dit, Neged Chesed Shel Kel, Gvura Shem Elokim, Tiferet Shem Avaya. Donc, c'est clair, voilà, c'est un peu long, c'est répétitif, mais c'est pour qu'on s'imprègne bien de ce langage, qui n'est pas le langage habituel. C'est aussi ce qu'a expliqué le fils du Gaon, dont il a dit que j'étais à Deot, bal le tsaref, echad le chesed, le tiferet, echad le tiferet ou voix. Ici, il introduit une notion de tsirufim. Le tsaref, ça peut vouloir dire plusieurs choses, mais ça veut dire associer. On va associer. Il y a deux associations qui sont faites là. L'une entre quelles est le tétragramme, et l'une entre le tétragramme et Elohim. Et ça, c'est justement, c'est simplement la mise en commun, enfin, l'association des noms divins. Après ça, hein, maintenant, on peut revenir à ce qu'on avait vu au début. On a dit « Gdola de'a shenitna ben shteotiot ». Le « dat », le discernement, bon, je veux dire tout de suite que le mot « dat », on traduit souvent par « discernement », mais en réalité, le mot « dat », il veut dire « chibour », il veut dire « lien ». Pas quand on dit que Adam a connu Chava, il a établi un certain lien avec elle. C'est dat. Le dat, c'est se relier à. Alors, on verra, on peut se relier à toutes sortes de choses, mais c'est la notion de chibour, le lien. Alors, le dat ici, qui a été donné entre deux noms divins, et puis aussi la nekama, qui elle aussi a été donnée entre deux noms divins, ça veut dire que l'association, le lien des midot d'Hachem dans le gouvernement du monde, c'est-à-dire le lien entre les midot de Chesed, de Din et de Rachamim, ces liens-là, entre ces noms divins, qu'est-ce qu'il y a entre les deux noms divins à chaque fois? C'est ou bien le dat, ou bien la nekama. Ou bien le dat, ou bien la vengeance. Entre les noms divins. Donc, C'est ça qui fait le lien entre ces noms divins. Bon, il ne faut maintenant pas regarder que ce qui est au milieu bénéficie en quelque sorte, mais au contraire, ce qui est entre les noms divins, c'est ça qui permet le lien, l'association de ces noms divins. Donc, la grandeur, quand on parle, on dit la grandeur du Dat, la grandeur de la Nekama, c'est parce qu'elle se trouve entre des noms divins. Leur grandeur, c'est que ces deux opérations de Déa et de Nekama sont, leur grandeur, c'est qu'elles sont capables d'associer des midot qui, a priori, sont différentes. Donc, elles associent dans ces situations, dans ces deux situations, disons, appelons-les comme ça, Dat et Nekama, il se fait un lien entre deux façons de gouverner le monde par Hachem. On devrait comprendre, évidemment, comment est-ce que le din et le rachamim, la rigueur, par exemple, et le rachamim, Elohim et Hachem, comment ça peut coexister en quelque sorte? Eh bien, visiblement, cette coexistence, elle est fabriquée par deux instances, ou bien la Nekama, ou bien le Dat. Dans un Sidour HaGaon, et aussi dans le Ramchal, dans le Pitrei Chochma, la date du Ramchal, il est expliqué la chose suivante. C'est encore un élément qu'on va ajouter pour essayer de comprendre de quoi on parle. Donc, c'est dit de façon très concise. Au début de la tfila du matin. Il dit, j'ai déjà écrit ailleurs qu'il y a une gouvernance du monde par Hachem dans laquelle Akadosh Baruch Hu est mechaye otam ou mekaimam. Hachem fait vivre les éléments, il leur donne la durée, et ceci c'est grâce aux trois midot, le chesed, din et rachamim, qu'on peut aussi dire en termes, on a vu, on peut le dire en termes différents, de Chesed, Gvura et Tiferet, qui sont ce qu'on appelle les Zeranpin, mais qui sont une partie de l'arbre séphirotique. Bon, on n'est pas obligé d'entrer là-dedans. Mais dans la suite, il explique, voilà, Behemet, Kol David Rachmana Letav. C'est un principe. Tout ce qu'Hachem fait, c'est toujours pour le bien. Alors quand tout va très bien, on comprend que c'est le bien. Le problème, c'est quand nous, on a l'impression que ça nous fait très mal. C'est bien joli de dire c'est pour le bien, c'est bien, on peut dire ça quand on est assis dans son fauteuil, mais quand on est en situation, c'est une autre paire de manches. Ça veut dire, même les onshim, même les ennuis graves qui arrive dans le monde, parce que Shalom, tout ça c'est le Tova. Tout ça c'est pour le bien. Au même moment où nous, qui, si nous sommes spectateurs ou acteurs, enfin, nous subissons les choses, on avait l'impression que ce qui nous arrive, ce qui se passe, c'est vraiment pas du bien. Il s'agit de comprendre, vraiment, on verra ce que vous voulez comprendre, que c'est une tova mamash, que c'est vraiment bien. Et pas seulement ça, mais que chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de changement. Mizman lezman. Tout fonctionne en permanence pour le bien. Nous, on voit Din, Onesh. Mais ça, c'est ce que nous comprenons maintenant. Mais bien sûr, dans le futur, on reconnaîtra qu'il s'agissait là de quelque chose de bien plus élevé que ce que nous croyions. Et à ce moment-là, on verra très clairement comment tout cela était bien. Un bien absolu. Ça veut dire, nous sommes dans le, on a déjà dit souvent, nous sommes dans le monde du deux, dans le monde du bien et du mal. Et donc, nous distinguons une anaga qui est entièrement bonne et une autre qui est entièrement digne, en tout cas, entièrement rigueur. C'est-à-dire, certaines fois, on nous donne du bâton, en quelque sorte, et d'autres fois, des cadeaux. Et ça, c'est ce qu'on a appelé ici Zeranpin, ça veut dire cette espèce de anaga où il y a les deux choses en même temps. Mais l'Atid Lavor, dans le futur, on ne sera plus dans cette situation-là. On verra très clairement qu'il s'agit en permanence du bien, c'est-à-dire qu'on verra combien Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte, est longanime, en fait, qu'il nous a laissé, et que même les sanctions, elles sont pour qu'on se rattrape, en fait. Et c'est ce que la Gemara, elle dit, que dans Olam Hazeh, on n'est pas comme dans Olam Haba. Parce que dans Olam Hazeh, sur les bonnes nouvelles, on dit Baruch Atov Ve'Ametiv. En général, nous, on dit ça surtout sur les bouteilles de vin, mais bon, c'est en général vrai, chose qu'on doit pouvoir dire. Quand quelque chose de bien arrive, on doit faire une bracha et dire Baruch Atov Ve'Ametiv. Le bon qui fait du bien. Mais sur une psoura ra'a, sur un deuil ou autre chose comme ça, on dit Baruch Dayan Ha'emet, le juge de vérité. Dans le Olam Haba, ce sera toujours Atov Ve'Ametiv. Mais maintenant, cette façon-là de comprendre que tout est tout, c'est toujours Atov Ve'Ametiv, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Celui qui dirait dans une mauvaise situation Atov Ve'Ametiv, probablement qu'il y aurait lieu de le punir, parce que ce n'est pas vrai. Tu ne vis pas ça comme ça. Nous, on ne le vit pas comme ça. C'est normal de ne pas le vivre comme ça. On est dans Olam Hazeh, on n'est pas dans Olam Haba. Donc, en lamazé, il y a, on peut dire, une forme de réalité du mal. Donc, il y a une situation dans laquelle on doit dire, Baruch Dayana Emet. Il y a aussi les situations, on doit dire, Atov Vermetiv. C'est quand il y a le chesed. Donc, le fait qu'il y ait tout ça, c'est qu'il y a din, rachamim et chesed. Des fois, ça penche plus du côté chesed, plus du côté sanction. Dans le futur, il n'y aura plus de... Le mal aura disparu. Donc, il n'y aura que la Mida Tova. Donc, un chesed complet. Dans le monde à venir, dans le futur donc, on verra le bien qu'il y avait dans ces situations qui nous sont apparues comme des situations désastreuses. Parce qu'en vérité, bon, le mot en vérité, c'est pas la vérité de notre monde. Mais en vérité, c'est pour le bien. C'est le bien. Seulement dans ce monde-ci, cette façon-là de gouverner le monde, celle-là, elle a disparu, elle n'est pas là, elle est cachée tant qu'on est dans le Olam Hazeh. Il y a une anaga, il y a, si vous voulez, comme si derrière une certaine forme, il y a un certain théâtre qui se joue, mais derrière, en réalité, c'est Kulotov. Le derrière étant plus haut, en fait. Le tzlach, c'est le Noda Biyuda, il écrit dans son commentaire sur le Tzachim, il écrit dans Olam Hazeh, alors c'est Lo Keshem Shani Nikhtav Ani Nikra. Donc dans ce monde-ci, on ne lit pas les choses comme elles sont écrites. Dans ce monde-ci, on écrit le tétragramme, mais on le lit avec Adnout, avec Adon. L'Atid Lavo, qui sera écrit et lu comme tétragramme. C'est-à-dire que nous ne voyons que la Hanaga de Mishpat, comme on dit. Mais pas la Hanaga, pas la gouvernance de Chesed Gamour. On ne voit pas que le monde est entièrement gouverné par Hachem, si vous voulez, par le tétragramme. C'est pour ça qu'on ne peut pas lire le tétragramme comme il est écrit, parce que le lire, c'est le faire exister dans notre monde. On ne peut pas le lire. L'Atid Lavo, on comprendra vraiment que tout ce qui était Mishpat, et qu'on devait traiter avec le nom divin Adnout, Adon, c'était pas vraiment la Midat Adin. C'était une midat de chesed absolue qui correspond au tétragramme. Mais dans ce monde-ci, cette anagala, cette façon de gouverner le monde, uniquement par tétragramme, Elle est cachée. Alors, on a gagné en particulier la chose suivante. Toute l'existence et la grandeur qu'on a attribuée à la notion de Déa et à la notion de Nekama, de vengeance, tout ça, hein, c'est par rapport à la gouvernance de ce monde-ci, où il y a une réalité du mal, où le mal joue un rôle, il a une place dans ce monde. Et donc, la gouvernance du monde, elle est à la fois avec Chesed et à la fois avec Din. Et à ce moment-là, ce qu'on a vu, c'est que toute la Hanaga du monde, elle passe, en fait, du Déa, du Daat, à la Nekama. Mais l'Atid Lavo, où il n'y aura que du bien, pas de réalité du mal, il n'y aura pas de différence entre Chesed et Din. On sera dans une anaga qui est entièrement de Chesed. Le Din apparaîtra comme un sous-produit, si on peut parler comme ça, de Chesed. Donc, il n'y aura plus ce système de passage de Déa et Nekama. Parce que toute cette réalité de Déa et de Nekama, elle vient de ce que il s'agit de fabriquer. Il s'agit de fabriquer le lien entre Chesed et Din. Mais l'Atid Lavo n'aura pas de lien à fabriquer. Il n'y aura pas de processus du mal, et on n'aura pas besoin de Nekama du tout. Donc, si on répète un tout petit peu le point, tout petit peu, c'est-à-dire que s'il y a une place pour le mal, alors toute la naga doit venir pour éradiquer ce mal, pour mettre le monde dans la situation où il n'y aura que du bien. Et donc, en fait, la naga du monde, elle passe de Déa à Nekama. Parce que le Déa, c'est ce qui va faire c'est la différence qu'il y a entre le Tov et le Mal. Déa, c'est le discernement entre le bien et le mal. Mara, elle dit, dans le Masechet Brachot, elle dit, Im ein Déa, avdala minayin. S'il n'y a pas de discernement, alors comment tu veux faire une avdala? Comment tu vas faire la différence entre les choses? C'est à partir de cette remarque-là que dans la tfila, dans la Shemoneh Esrei de Motsei Shabbat, qu'on fait avdala dans la Amida, on l'a fait dans la bracha qui est Atachonen, la Dam Da'at. Dans la bracha qui parle du Da'at, on fait Avdala. Parce que s'il y a du Da'at, on peut faire une Avdala, faire une différence. Et la Nekama, c'est justement ce qui va mener à la destruction du mal. Pour amener le monde, il faut détruire le mal. Donc, il faut amener le monde à être tout entier Tov. Donc, le Déa, et le nekama viennent, comme on a vu, viennent faire le lien entre ces trois nagot de Chesed, Din et Rachamim. Le Da, comme on a vu, c'est, je vous ai dit, c'est une expression qui veut dire le lien, le chibour. Donc, elle relie quoi? Ce Da, il relie quoi? Il relie Chesed et Din. Il relie le Chesed et le Din selon les besoins du fonctionnement du monde. Des fois, il faut appliquer le Din pour éradiquer le mal. Puis après, on peut faire triompher le bien. La Nekama, elle vient aussi fabriquer du lien. Parce qu'il y a aussi, dans la Nekama, il y a aussi un processus de Chesed et un processus de Din. Pourquoi? Parce que la Nekama, elle vient de Midat Adin pour faire payer les Rechaim. Elle vient dans un processus de Chesed, c'est-à-dire faire du bien au clan d'Israël et sauver le clan d'Israël de ceux qui lui veulent du mal. Et donc là, on voit les deux Nekamot dont on a parlé dans la Gemara dans Brachot, l'une pour le bien, une pour le mal. Certaines fois, la Nekama, elle viendra que elle va avoir lieu, si on peut parler comme ça, mais il n'y aura pas de salut pour celui qui a été frappé. Mais quand il s'agit des Bnei Israël, la Yeshua, le salut ne vient toujours grâce à la Nekama. Mais l'existence même du mal et de la Nekama, c'est seulement quand il y a la Metsiout du mal. C'est-à-dire quand la gouvernance, elle se fait avec Chesed et aussi avec Din. Nati de Lavo, évidemment, il n'y a que du Tov, donc il n'y aura pas de réalité du mal. Alors, on n'aura pas besoin du Da pour faire la différence entre le Tov et le mal, entre le bien et le mal, puisqu'il n'y aura plus de mal. Tout sera Tov. Donc, il n'y aura pas non plus de procédure, de processus de Nekama pour détruire le mal. Donc, on peut commencer à comprendre un tout petit peu ce que disait le Gaon sur le Had de l'Oyada. Jusqu'à ne plus savoir la différence. Dans le miracle de Pourim, il y avait les deux anagot de Chesed et de Din. C'est-à-dire, il y a un pasouk dans Michelet que le Gaon commente, et dans lequel il va expliquer ça, justement. En passant que c'est marqué, Tov tzadikim te'elatz kiria, boudreshaim rina. C'est-à-dire, lorsqu'Hachem sauve les Bnei Israël des mains de leurs ennemis, mitrila goel otam, umetiv lahem. D'abord, il les sauve, il leur fait du bien, et après, il leur permet de prendre leur de prendre la vengeance contre ceux qui leur ont fait du mal. Comme c'était le cas en Égypte. Au début, Hachem a sauvé les Bnei Israël, et ensuite, il a détruit les Égyptiens au passage de la mer. Et chez Aman, c'est la même chose. Au début, il a commencé par faire du bien à Mordechai. Mordechai, il a eu droit à un tour de la ville à cheval. Bon, et après, il a fait tomber Aman. Et on l'a pendu. Donc, quand Hachem fait du bien au Tzadikim, alors dans la Megillah, on voit très bien « Kolaïr Smecha » toute la ville. « Sa'alav Smecha » elle exulte et elle se réjouit. Mais en fait, il n'y a pas encore de cri de joie, en quelque sorte, et de louange d'Akadosh Baruch Hu. Ça vient seulement plus tard. Lorsque la vengeance est appliquée à ceux qui voulaient nous détruire, à ce moment-là, on exulte et on dit des louanges d'Hachem. C'est ça le Tov Tzadikim Ta'alotz Kiria. La ville va exploser de joie lorsque on fait du bien au Tzadikim. Comme c'est marqué, Vayev Shushan, Tzalab et Samecha. Et seulement après, quand Hashem a pris la vengeance des ennemis, à ce moment-là, il y a Rina, la joie. Comme un Yam Souf, comme au passage de la mer. Et comme à Pourim. Bon, le principe, c'est un principe qui est énoncé dans le Zohar, mais on ne va pas entrer là-dedans. En tout cas, ce qu'on voit dans ce commentaire du Gaon, que le sauvetage, le salut qui a eu lieu à Pourim, il a eu lieu dans un processus de chesed et de din, c'est-à-dire dévoilement du chesed, c'est-à-dire gedulat Mordechai, l'élévation de Mordechai, ve gilui hadin be nikmat Haman, dévoilement de la midat hadin lorsque la vengeance a été appliquée à Haman. Le Maram Shif aussi dit la même chose, mais on ne va pas parler de ça maintenant. On n'en a pas compte. Le Gaon nous a donc expliqué que ce que Chazal veut dire quand ils disent Chaya vinish libisume bepuria ad de lo yada ben Arur Haman ou Baruch Mordechai. Qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire? Ils ont voulu nous dire que, évidemment, Pourim, c'est une fête, donc ça s'inscrit dans notre avoda, dans le service d'Hachem. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se mettre en situation, se mettre au niveau dans lequel il n'y a plus de réalité du mal. Il n'y a que la seule réalité, c'est le tov absolu. Parce que Pourim, c'est le jour où il a été fixé quelle réalité on va donner à la destruction d'Amalek. Alors, Amalek, c'est la racine, toute la racine du mal dans le monde. Amalek, c'est le Nahash, c'est le serpent de Bereshit. Parce qu'on dit que Amalek, il est produit du serpent. Et Aman Arasha, sa racine, son enracinement dans la réalité du mal, dans le monde. La réalité du mal dans le monde, c'est la faute d'Adam Arishon. C'est ça qui a introduit, qui a fait que le mal existe dans le monde. Où est-ce qu'on voit très clairement ce lien entre Aman et la réalité du mal dans le monde? On le voit dans la fameuse question de la Gemara. Vous connaissez certainement, on l'a même déjà dit. La Torah, c'est le plan du monde. Donc, tout ce qui existe dans le monde se trouve dans la Torah. Absolument tout. La place de chacun d'entre nous est écrite dans la Torah. Nous ne savons pas toujours, on ne sait jamais pratiquement, où est notre place, où est-ce que nous sommes écrits dans la Torah. Le seul, je pense que dans l'écrit du Arizal, il doit y avoir des informations plus claires, mais du Gaon de Vilna, on sait, par son élève, on sait où il est écrit dans la Torah. Marqué dans la Torah que tu dois avoir des poids et mesures qui sont sincères, c'est-à-dire qui sont vrais. Et le poids, un poids dans la Torah, ça se dit even. C'est le mot pierre, en fait. Un poids, c'est une pierre. Et la Torah, elle dit, tu dois avoir Even Shlema. Tu dois avoir un poids parfait, un poids vrai. Tu dois avoir un Hin. Le Hin, c'est une mesure de contenance. Là aussi, cette mesure de... C'est marqué un litre, ça doit être vraiment un litre. Il ne s'agit pas ici d'un interdit d'utiliser des faux poids. Parce que ça, c'est du vol, on n'a pas besoin de le dire. L'interdit, il est de posséder chez soi des poids qui ne soient pas exacts. C'est-à-dire que même si vous avez un poids qui est marqué un kilo, mais vous savez que, parce qu'il a été rongé ou je ne sais pas quoi, il n'y a plus que... Ce poids-là correspond seulement à 900 grammes. Même si, quand les gens viennent faire du commerce avec vous, vous leur dites, sachez que c'est écrit un kilo, mais c'est 900 grammes, je ne vais pas vous facturer un kilo. Parce que si je vous ai mis des fruits sur l'autre plateau de la balance, vous n'avez reçu que 900 grammes, et je ne facture que 900 grammes. Il ne s'agit pas de voler. Mais on n'a pas le droit de garder chez soi des poids qui ne sont pas exacts, en fait, indépendamment de l'usage qu'on en fait. Et Even Shlema, ça peut se lire Eliaou ben Shlomo, et le Gaon de Vilna dit que c'est lui. Que lui, il est là dans ces quelques mots, enfin ces deux mots, Even Shlema. C'est lui, c'est sa place. Gan a aussi enseigné que dans les parshiot du Sefer Dvarim, chaque parasha correspond à un siècle du sixième millénaire. Le Sefer Vayelech, c'est une seule et même parasha, donc il y en a 10. Et donc on sait dans quel parasha se trouve le Gan, donc ça nous donne une idée. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien si quand on donne la place de quelqu'un dans la Torah, est-ce que c'est la place, est-ce que ça correspond à sa date de naissance, à sa date de disparition du monde, ou à la date où il a dit son plus grand chidouche, à la date de son mariage, de ses enfants, je ne sais pas. Donc, quand quelqu'un vit 70 ans, on a quand même un flou de 70 ans, même si je sais où il est à peu près dans le siècle en question, mais je ne sais pas à 70 ans près. Je connais on connaît les dates de naissance et de tirat du Gaon de Vilna, mais ça ne nous permet pas de savoir exactement, on ne peut pas avec ça étalonner le siècle du Gaon avec cette seule information de le Gaon est ici, parce qu'on ne sait pas à quel moment de sa vie il est à cet endroit-là. Mais en tout cas, tout est inscrit dans la Torah, toute chose se trouve dans la Torah. Et donc, vous connaissez très bien, du coup, la Gemara, elle demande, alors, où est-ce que Esther est écrite dans la Torah? Où est-ce que Haman est écrit dans la Torah? Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est Haman, ici. Alors, le mot Haman, ça s'écrit « He Mem Nun Final ». Et si on s'y prend bien, au lieu de lire Haman, on peut aussi lire Ha-Min. Et ce mot de Ha-Min, il est dans la question qu'Hachem a posée à Adam Harishon. Quand Adam Harishon a dit qu'il était allé se faire un costume en feuille de figuier, alors Hachem lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que par hasard tu aurais mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Et dans la Torah, ça se dit Hamin Ha'etz. Est-ce que de l'arbre? Et Hamin Ha'etz, c'est Haman. Hamin, c'est Haman. Donc Haman, il est où dans la Torah? Justement au moment où la Torah nous décrit la faute d'Adam Harishon. Donc on voit bien que ça veut dire que la racine dans la Torah, donc c'est sa racine, la racine de Haman, elle est dans ce problème-là, et prend sa force négative de la transgression d'Adam Harishon. C'est ça la puissance de mal d'Adam Harishon, de Haman. Bon, il y a peut-être d'autres composantes. Haman, en plus de tout, il fait partie de... Il est un descendant d'Amalek. Tel que dans la Megillah, il est présenté comme un descendant de ce roi que Shaoul n'a pas tué, mais que Shmuel a tué, à Agagi. Il y avait un roi, vous savez bien, on a une mitzvah de détruire Amalek, c'est une mitzvah qui concerne le roi. Vous n'avez pas l'obligation de partir en guerre contre Amalek. Mais si jamais l'une de vous devient roi, d'accord, eh bien, sachez que une des premières choses qu'il faudra faire, c'est éradiquer Amalek. Et le premier roi, Shaoul, a reçu la mission de faire la guerre contre Amalek, ce qu'il a fait, mais il n'a pas éradiqué complètement Amalek. Il avait décidé qu'on allait exécuter le roi publiquement, en grande pompe, Mais entre-temps, ce roi-là, il a eu le temps d'engrosser une servante et donc d'assurer la pérennité d'Amalek. Et donc, c'est arrivé jusqu'à Aman. Avec la question, c'est des questions auxquelles vous pourrez réfléchir pendant Pourim, d'accord ? Comment se fait-il que Aman, qui est descendant d'Amalek, c'est-à-dire qu'il est un sémite, comment est-ce qu'il peut être le chef de la noblesse persane ? Les Perses ne sont pas des sémites. Donc, a priori, la noblesse persane ne devrait pas être dirigée par un amalécite, par un sémite, en fait. Bon. Ce n'est pas une question fondamentale, mais c'est quand même une question. Ça prouve simplement qu'Amalek est partout. Qu'Amalek n'est plus un peuple en particulier, mais qu'il y a de l'Amalek partout. Donc, on voit que la source de la négativité de Aman, elle est dans la faute d'Adam Arishon. Donc, ce qui nous est dit à Pourim, la avoda, ce qu'on doit faire, puisque Pourim, c'est un moment où le mal a été éradiqué sous forme de destruction d'Amalek, l'homme, le juif, doit s'élever et s'installer, donc fabriquer un état pour lui, dans lequel il n'y a plus de réalité du mal. Il n'y a que le Tov. Donc ça veut dire que il n'y a plus de Nekama. Alors, bien que, effectivement, à Pourim, il y ait eu les deux choses, on vient de le dire, mais malgré tout, au niveau des racines des choses, dans la Naga cachée, où tout est seulement Tov, où il n'y a pas de réalité du mal, donc à Pourim, qui correspond donc à ce Bi'ur, à cette destruction du mal, l'homme doit s'élever, sortir de cette réalité du mal et se mettre dans cette situation de kolatov. Et à ce moment-là, il n'y a pas de, il n'y a plus de place pour la nekama. Et c'est ça que le Gaon a dit. Hayav Adam Libesume. Il faut s'embrumer. Alors, pour se mettre dans un état second, s'embrumer, c'est avec du vin, ou bien en dormant, peut-être d'autres moyens, je ne sais pas. À ce moment-là, il n'y aura plus de différence dans ce monde-là. Il n'y aura plus de différence entre, il n'y aura plus le mal et le bien. Donc, cette différence qu'il y a entre la Nekama de Aman et la Gdoula de Mordechai, cette obligation de s'embrumer, elle vient de telle sorte que on arrive à ne plus faire cette différence. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de montrer quelle était la différence. Cette différence, elle est radicale. Mais elle est radicale dans ce monde-ci. Et pour Pourim, d'une certaine manière, c'est un moment, on pourrait presque dire ici, c'est un moment où on n'est plus tout à fait dans ce monde. Alors, on peut échapper, à sortir de ce monde par, par les deux moyens, où on va dormir, ou bien on va, et on sait comment, combien boire pour être suffisamment embrumé pour ne plus faire la différence, pour ne plus voir que le bien, être capable sans se raconter des histoires, considérer que c'est le bien a triomphé. C'est ça qui nous est demandé. C'est plus la différence entre la nekama d'Aman. En parenthèse, je voudrais juste préciser pourquoi est-ce que nous n'avons pas le droit de prendre vengeance. Alors, on peut regarder d'abord la chose suivante. Pour m'arrêter si je l'ai déjà raconté, parce que je ne sais plus ce que j'ai dit à qui. Mon cher Rabbeinu, avant sa ptira, Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas prendre la nekama des Bnei Israël sur Midian. Midian, c'est quoi? Vous vous souvenez? Après que Bilam, qui, dont les services avaient été payé par Balak, il n'est pas réussi. Il a donné un conseil gratuit. Il leur a dit, le Dieu des Juifs, en fait, ne supporte pas que au niveau des mœurs, les choses ne se passent pas bien. Et donc, si vous arrivez à faire tomber les Bnei Israël dans ce domaine-là, vous avez gagné. Et donc, comme on sait, ils ont prostitué les princesses pour faire tomber les Bnei Israël. Une grande partie des Bnei Israël sont tombés, effectivement. Et bon, dans ceux qui ont participé à cela, il y avait les gens de Moab. Les gens de Moab, ils étaient terrifiés parce qu'ils voyaient les Bnei Israël comme les uns, quasiment. Ça veut dire tout est conquis sur leur passage. Mais Midian, qui n'était pas en danger, Midian, c'est les associés traditionnels de Moab. Eux, ils sont venus aussi. Et eux, ils l'ont fait pour le plaisir de faire du mal à Israël. Donc, si on pouvait peut-être éventuellement comprendre la démarche de Moab, mais celle de Midian, elle est insupportable. Et donc, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, je te donne un privilège. Tu vas voir la Nekama, tu vas arranger la Nekama contre Midian. Tu vas faire la guerre contre Midian. Nous savons que le mal ne triomphe pas ultimement. Nous savons, c'est notre émouna. Mais en général, on ne le voit pas. On ne voit pas que les Rechaïm, ils sont tout de suite sanctionnés, etc. Il y a des Rechaïm qui vivent très bien, merci pour eux. On a l'impression que bon, tout va très bien pour eux. Notre émouna, c'est qu'un jour, ils vont donner des comptes. Dans ce monde-ci, ou dans le monde à venir, ils ont des comptes à rendre. Mais on ne le voit pas. Akadosh Baruch Hu, évidemment, du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, c'est connu. Pour lui, c'est clair. Et Hachem a fait une tova à Moshe Rabbeinu. Il a dit non seulement, bien sûr, tu as Emouna, que ce que Midian vous a fait au Bnei Israël, ne restera pas impuni. Mais je te donne l'occasion de voir la punition. C'est-à-dire, c'est toi qui vas amener la punition. Tu vas prendre la Nekama. Nous, on ne peut pas prendre la Nekama parce que nous ne savons pas quelle doit être la sanction. du mal qui a été fait. On n'a aucune idée. On ne sait jamais l'ampleur ou l'amplitude exacte du mal. Mais chez nous, c'est tout est subjectif. Donc, seul Akadosh Baruch Hu sait. Donc, il n'y a que lui qui peut prendre l'anekama. Sur son ordre, pour Moshe Rabbeinu. Et en fait, c'est intéressant, c'est la dernière chose que je voulais ce soir pour l'instant, avant que je dise encore autre chose, mais Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas prendre la Nekama d'Israël, tu vas venger Israël de ce que les Midianites ont fait. Et Moshe Rabbeinu, quand il a parlé au Bnei Israël, il a dit, on va venger Hachem pour ce que les Midianites ont fait. Donc, chacun a le souci de l'autre. Cette chose. Voilà, donc, c'est ça la réponse à laquelle vous avez certainement pensé, qui est la différence qu'il ne faut plus faire. Mais nous, dans notre monde, on fait la différence. Mais à Pourim, à un moment donné, il faut être capable de ne plus faire la vie. Il faut essayer de ne plus faire la différence et que ce soit Nekama ou que ce soit Gdoulat Mordechai, de toute manière, c'est Tov. C'est le Tov. C'est deux façons de faire exister le Tov tout seul dans le monde en ce moment-là. Pourim, c'est un moment et c'est problème pour ça. Que Pourim ne disparaîtra pas comme fête. Toutes les fêtes qui sont liées à la sortie d'Égypte vont disparaître. Mais Pourim ne disparaîtra pas. Parce que Pourim, c'est plus fondamental encore. Tout le principe de la Hanaga, de la gouvernance d'Hachem dans le monde. Voilà.